Spotkania europejskie.
Cruzamento da Europa.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromitis Evropis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bonsoir, bienvenue au Carrefour de l'Europe. À force de produire plus, l'agriculture européenne a fini par produire trop. Trop de lait, trop de porc et bientôt trop de céréales. Mais tous les pays ne sont pas placés à la même enseigne. Ainsi, on entend guère les paysans allemands se plaindre quand les éleveurs français crient leur colère. L'Europe, qui consacre près de 40% de son budget à la PAC, la politique agricole commune, est accusée de tous les maux. Il faut dire que l'on est passé en quelques années d'un système de prix garanti à un système libéral où les prix sont fixé par le marché mondial. On a rarement vu en France un agriculteur ne pas protester. Mais ceux qui s'en sortent aujourd'hui ont soit atteint une taille critique, soit développé une niche comme l'agriculture bio. La France est le premier pays agricole en Europe, mais le troisième exportateur seulement de produits alimentaires, après l'Allemagne et les Pays-Bas. La France aurait-elle fait les mauvais choix et où va l'agriculture européenne? Bienvenue au Salon de l'agriculture. Bonjour Angélique Delahaye.
Bonjour.
Vous avez deux qualités. Vous êtes agricultrice et même maraîchère, ça veut dire que vous cultivez non pas des céréales, mais des...
légumes.
Et quelles sortes de légumes?
Oh, un peu tous les légumes, enfin en tous les cas une grande variété. Ça va de l'endive en passant par le concombre, la salade, le fenouil, le chou-fleur encore dernièrement, mais le réchauffement climatique nous cause quelques difficultés. Hein. Le céleri blanche et la mâche.
Ça fait beaucoup. Je disais deux qualités, agricultus maraîchère et eurodéputée LR-PPE, c'est-à-dire que vous siégez au Parlement de Strasbourg sur les bancs de la droite conservatrice au sens large du terme. Hervé Guillemard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur scientifique de l'INRA. L'INRA en un mot.
L'INRA, c'est l'Institut national de la recherche agronomique et nos domaines d'intervention sont l'agriculture, l'environnement et l'alimentation.
Gilles Luneau, bonjour. Vous êtes à la fois journaliste et écrivain. Vous êtes rédacteur en chef de Global Magazine et vous êtes aussi co-auteur avec José Bové d'un ouvrage qui s'appelle L'alimentation en otage, paru chez Autrement. Et puis Jürgen Olof, bonjour, guten Tag.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur agronome et premier conseiller en agriculture et en alimentation à l'ambassade d'Allemagne en France. Alors avant d'entrer dans notre débat, nous allons faire un détour par la rédaction de Courrier International. Courrier International qui interroge le monde chaque semaine à travers sa presse. Bonjour Virginie Le Petit.
Bonjour Daniel.
C'est un article du quotidien suisse Le Temps qui a retenu votre attention. Le correspondant s'est rendu dans l'Aisne, en Picardie, une terre de céréaliers et de betteraviers, c'est-à-dire de sucriers, et il a rencontré des agriculteurs désabusés, voire désespérés.
Oui, désespérés, je pense que c'est le mot. En fait, il décrit assez bien cette impuissance et puis, comment dire, ce cri des agriculteurs qui ne se sentent pas entendus et qui, effectivement, ont le sentiment de vivre une longue agonie sans que personne ne leur tende la main. Et ce qu'ils disent tous, ces agriculteurs, c'est qu'ils sont écrasés, comme on l'entend déjà depuis un certain temps, par les prix, et notamment cette chute du cours des matières agricoles depuis le début de 2014, et qu'ils ont beaucoup, beaucoup de mal à faire face. On leur a demandé d'investir, on leur a demandé de faire des efforts, ils l'ont fait, et puis maintenant ça ne paye pas, et pire que ça, ils sont pris à la gorge. Donc effectivement, on les sent, et le papier le décrit très bien, avec beaucoup d'empathie, on les sent extrêmement désespérés.
Ils ont l'air un peu perdus face à la mondialisation. Or bien sûr, l'agriculture, par définition, elle est mondiale.
Oui, l'agriculture est mondiale, elle est d'abord pour eux européenne, puisque c'est les règles auxquelles ils sont censés se soumettre, mais effectivement elle est mondiale, et ils se sentent effectivement dépassés, ils ne voient plus de quoi l'avenir sera fait, et l'article revient aussi sur la différence en fait entre aujourd'hui, où ils font face à une concurrence donc mondiale, et il y a plus de 60 ans, où les agriculteurs étaient 40% en France et non pas 4% de la population active comme aujourd'hui. Et ils disent, voilà, à l'époque, physiquement, c'était extrêmement dur. Aujourd'hui, c'est psychologiquement beaucoup plus dur pour les gens qui travaillent et qui sont agriculteurs.
Merci, Virginie. Courrier International, l'hebdo, courrierinternational.com, le site. Angélique Delahaye, c'est beaucoup plus dur aujourd'hui.
C'est surtout beaucoup plus différent. Moi, je le dirais comme ça. On peut effectivement considérer que la souffrance psychique a remplacé la souffrance physique. Moi, je ne veux aucune des deux en tant qu'agricultrice. Et je pense qu'il faut qu'on change de paradigme.
On ne peut pas être passéiste, on ne peut pas être nostalgique de l'agriculture d'hier. On est obligé de vivre dans notre temps avec les réalités auxquelles nous sommes confrontés. Il faut alléger le fardeau des agriculteurs.
La crise que connaît l'agriculture française en Europe, on peut la résumer en quelques mots et quelques chiffres. La France a perdu plus de la moitié de ses fermes en 25 ans. Dans la foulée, la superficie moyenne des exploitations est passée de 13 à 56 hectares. Mais c'est surtout la chute des prix payés aux producteurs qui explique le malaise. Les filières d'élevage, c'est-à-dire le lait, le porc et le bœuf, ont vu les prix s'effondrer en 2015. Les céréaliers sont touchés à leur tour par la chute des cours mondiaux du blé. Et la situation n'est guère meilleure du côté des fruits et des légumes. À qui la faute, Hervé Guillaumard?
Dans ce que vous avez dit, il y a des évolutions plus structurelles sur la baisse du nombre d'agriculteurs, l'augmentation concomitante en fait de la taille des exploitations, ceci étant avec des tailles d'exploitations qui n'ont quand même rien à voir avec par exemple la taille des exploitations que l'on peut observer en Chine, en Australie ou en Argentine, par exemple dans des pays comme ça. Et le problème, il est aujourd'hui, c'est un problème de chute des cours qui est en fait la conjonction de plusieurs facteurs. Donc bien sûr, on va citer l'embargo russe, par exemple, qui pèse beaucoup sur les exportations de viande, et en particulier celle de porc. Le ralentissement de la croissance en Chine qui fait que la Chine importe moins, et c'est un importateur important. Mais je pense qu'il y a un phénomène aussi important à considérer, c'est le ralentissement de la croissance économique en Europe. Il ne faut pas oublier que quand même le premier débouché de l'agriculture française, c'est le débouché national, et le deuxième, c'est le débouché européen. Donc, et en fait, c'est une conjonction de facteurs qui explique. Et je pense qu'il faut aussi se remémorer que les prix du lait, par exemple, en 2014, étaient élevés. Voilà. Et donc, la question, c'est comment, aujourd'hui, dans un nouveau contexte, vous faites face à la volatilité des cours, des marchés, et qui se traduit par une volatilité des revenus agricoles.
On va bien sûr y revenir au cours de cette émission. Gilles Luneau, on accuse beaucoup l'Europe, qui consacre pourtant 38% de son budget à la PAC, alors qu'il y aurait peut-être d'autres priorités que l'agriculture en Europe aujourd'hui.
Oui, enfin, ça dépend. Qui accuse l'Europe de mettre trop d'argent sur l'agriculture? Moi, je ne crois pas. Je suis un fervent défenseur du soutien à l'agriculture. Après, je pense que on se divise sur les options des soutiens. Je voudrais juste revenir sur ce qui s'est dit. Moi, je ne suis absolument pas d'accord avec la définition de que l'agriculture serait, comme ça, par définition mondiale. L'agriculture, elle est d'abord territoriale. L'agriculture, elle est liée à la surface d'une ferme, à la manière dont on produit. Et que vouloir, c'est l'illusion... qui est une pure chimère, le prix mondial. Vouloir faire croire que les conditions d'exploitation et les prix de revient sont les mêmes dans une petite ferme de haute montagne et dans un ranch texan, c'est simplement insensé. C'est ce qu'on vit aujourd'hui quand même dans la chute des prix. Hein. Il y a un deuxième étage dans la chute des prix. Je pense que Hervé Guillaumard l'expliquait très bien. On ne va pas revenir sur les causes conjoncturelles. On est tous d'accord dessus. C'est qu'un moment passager. Mais structurellement, qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est que 10% en gros des échanges mondiaux agricoles font tomber 90% de la production agricole en termes de prix. Hein. C'est là, d'habitude, et la politique au début, la politique européenne, mais même avant, hein, c'est de la responsabilité d'un gouvernement d'assurer à manger à ses citoyens, c'est de maîtriser la politique agricole. Et on assiste sur les dernières refontes de la politique agricole commune. Ce qu'on appelle libéralisation, c'est quoi? C'est confier les clés de l'économie agricole à la contractualisation privée, sans aucun encadrement de la puissance publique, si vous voulez. Donc c'est ça, finalement, un des gros problèmes et une des grosses causes de la chute des prix aujourd'hui. Parce que, et j'en finis là, parce que finalement, l'intérêt d'un industriel, et on peut le comprendre à la limite, hein, c'est d'avoir les prix les plus bas possibles pour la transformation alimentaire. Et c'est pareil à l'autre bout de la chaîne sur la grande distribution. Et qui c'est qui est pris en ciseaux? C'est le paysan à ce moment-là.
Jürgen Herlof, quand vous entendez Gilles Luneau dire voilà, il faut réguler les prix, etc., qu'est-ce qu'on en pense en Allemagne? L'Allemagne qui est devenue le premier exportateur de produits agroalimentaires en Europe, devant la France, qui est en troisième position, et entre les deux, il y a les Pays-Bas. Qu'est-ce qu'on en dit en Allemagne?
Oui, en Allemagne, nous avons aussi une situation très grave dans l'agriculture. Les agriculteurs sont très inquiets. Mais pour l'instant, il n'y a pas des manifestations. Je pense on sait que la situation est une situation temporaire qui va changer. À la longue, les perspectives pour l'agriculture sont bonne. Dans le monde, nous avons demande croissante. Le nombre de personnes
à nourrir
augmente. On change le type de manger. On mange plus les produits, la viande, le lait.
On mange plus de viande, on boit plus de lait. En tout cas, au niveau mondial, même si évidemment en Europe, on a tendance à manger plutôt moins de viande et à boire moins de lait. Angélique Delahaye, est-ce que la PAC est aujourd'hui inadaptée? La PAC, la politique agricole commune, elle profite à qui d'abord?
De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé au bout d'un système. La PAC qui a été imaginée dans les années 90 et qui va s'achever en 2020, elle n'est plus du tout adaptée à la situation. Alors, moi, j'entends ce que dit mon voisin. Moi, je pense qu'il faut vraiment changer de paradigme. Il faut imaginer une PAC qui intègre ces problématiques de volatilité des prix et donc la conséquence qui est la fluctuation de revenus des producteurs. Alors, la PAC ne réglera pas tout non plus parce que, on le voit bien aujourd'hui, l'agriculture française, les agriculteurs français souffrent beaucoup plus que nos collègues européens. Notre interlocuteur venait de le dire, il y a une inquiétude en Allemagne, mais ils n'en sont pas à descendre dans la rue comme il n'y a pas la même désespérance. Enfin, en tous les cas, moi, je le sens comme ça à la Commission agriculture au Parlement européen. Je n'ai pas le sentiment que mes collègues européens aient les mêmes inquiétudes que celles que moi je sens sur le territoire national. Pourquoi? Parce que la politique agricole commune, on l'a détricotée. On a renationalisé la politique agricole commune. Et aujourd'hui, effectivement, on laisse chaque État prendre ses décisions. Enfin, moi, je remplis les déclarations PAC, à telle enseigne que nous avons deux exploitations avec mon mari.
En tant qu'agricultrice et pas en tant que redéputée,
bien
évidemment.
En tant qu'agricultrice, à telle enseigne que mon mari me fait remplir la sienne parce que excusez-moi l'expression, ça le gave.
Hein. C'est un peu compliqué.
C'est très compliqué. Et même, j'en suis rendue à la faire sur le papier parce que par Internet, ça fonctionne même plus. Et j'interrogeais un de mes collègues députés européens allemands qui est président d'une coopérative laitière. Il me dit, mais moi, chez moi, c'est simple, c'est deux feuilles. Nous, on a pris les 17 mesures en France. Donc, vous imaginez la complexité qu'on a rajoutée. Donc il faut changer les fondements de la politique agricole commune pour intégrer, alors on ne sera peut-être pas forcément d'accord avec mon voisin, c'est cette internationalisation des volumes. Là où je suis d'accord avec lui, c'est que c'est une infime partie qui fait les marchés et c'est tous les autres qui trinquent. Donc il faut arriver à contrecarrer ça. Pour autant, les échanges aujourd'hui, ils sont mondiaux, qu'on le veuille ou pas, et il y a quand même un lien entre les matières premières agricoles, même si je n'aime pas le terme, parce que je considère que je ne fais pas une matière première, et puis toutes les autres matières premières. Vous n'aurez jamais un prix du blé au sommet quand le pétrole est au prix où il est aujourd'hui. Alors, donc tout ça est intimement lié, et l'agriculture fait partie
de cette mondialisation. Ce que nous a dit Gilles Minot, c'est qu'il y a plutôt une agriculture, elle doit rester territoriale, elle doit d'abord nourrir les gens qui habitent autour des exploitations, puis un peu plus loin, et puis éventuellement encore un peu plus loin. Alors que d'un point de vue allemand, ce qui est important, c'est évidemment de nourrir la population allemande, mais aussi d'exporter le maximum. Alors, est-ce que les Français, finalement, n'ont pas fait les mauvais choix? Est-ce qu'ils n'ont pas anticipé? Et ce qui expliquerait aussi, par exemple, le malheur des agriculteurs aujourd'hui, en tout cas d'un point de vue de tout ce qui est exportation. Après, évidemment, on écoutera Gilles Luneau.
Je veux le faire très rapidement, mais enfin, il faut reconnaître que nos collègues allemands sont des gens extrêmement pragmatiques. La disparition des quotas laitiers, elle est connue depuis longtemps. Ils se sont organisés, comme les Irlandais, comme les Hollandais. Nous, on a voulu être un peu dans notre village gaulois, excusez-moi de le dire comme ça, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais c'est une réalité. Et le fait qu'on ait voulu garder un modèle sans forcément chercher à l'adapter fait qu'aujourd'hui, on souffre forcément plus que les autres.
Gilles Luneau, il y a un moment que vous voulez intervenir.
Oui, je pense que simplement sur le silence tout à fait relatif quand même des agriculteurs allemands. D'abord, il n'y a pas la même culture de contestation, il n'y a pas non plus la même culture de négociation avec le politique. Chez nous, il faut vraiment aller se frotter pour arriver à avoir un dialogue un peu correct. Donc ça, c'est la première observation. J'ai quand même vu, comme journaliste, passer l'inquiétude des organisations de producteurs allemands. Le prix du lait est à peu près pareil pour eux et les coûts de revient sont à peu près les mêmes. La différence qu'il y a, c'est que l'Allemagne, à la chute du mur, vous avez doublé vos capacités agricoles. tant mieux pour vous, hein, c'est pas une critique. Et vous avez aussi hérité d'énormes exploitations kolkhoziennes, je veux dire.
Issues de l'Europe, de l'Allemagne de l'Est.
Voilà. Donc c'est un atout considérable pour vous. Hein, je pense qu'il faut avoir ça en perspective dans l'approche un peu différente. Maintenant, moi, je voudrais revenir sur l'inévitable mondialisation. Je suis entièrement d'accord sur le constat et il ne s'agit pas de stopper les échanges. La question, c'est d'accepter de les encadrer politiquement. Les États-Unis, s'il y a un pays qui est libéral, a 4 prix du lait. Chez nous, c'est le prix de la poudre qui fixe le prix aux producteurs, alors que chez eux, si le lait est transformé en fromage, en beurre, en lait cru ou en poudre, c'est pas le même prix et c'est encadré par le gouvernement. Certes, il y a de la contractualisation avec l'industrie, mais elle est encadrée par le gouvernement fédéral. C'est-à-dire qu'il, par exemple, hein, si on revient sur des mesures d'urgence, je prétends pas donner des solutions à la crise actuelle, loin de là, je suis journaliste.
Mais
je veux dire que des mesures d'urgence relativement simples, je pars sous le contrôle d'une députée européenne, c'est déjà d'interdire la vente à perte en agriculture, ça assainirait un petit peu le débat. Hein. Et la deuxième, c'est de revenir à des régulations.
Hervé Guillemard.
Je pense que la question, c'est, on a aujourd'hui une crise qui est peut-être plus marquée en France que dans d'autres pays européens, mais elle est quand même européenne. Voilà, et je partage. Alors après... Selon les cultures, les histoires, les relations sociales de tel ou tel pays, ça se traduit un peu différemment. Mais il y a des difficultés, je pense, dans un grand nombre de pays européens. Et pour une partie, c'est lié quand même, je répète, au développement et à la croissance économique en Europe. Hein, voilà. Et en Allemagne, il y a quand même une grande différence, par exemple, entre les exploitations de l'Allemagne du Nord et les exploitations de l'Allemagne du Sud, où il y a beaucoup de petites structures laitières, par exemple, en Bavière. Et donc la question, c'est... Quels instruments on va mettre en place aujourd'hui pour à la fois s'attaquer à des marchés locaux, comme ça a été dit tout à l'heure, tout en tenant compte du fait qu'il faut aussi aller à l'exportation où il y a la croissance. Et donc, revenir aux anciens instruments, ce sera très difficile. Et donc, on est dans une phase où il faut dès aujourd'hui réfléchir aux nouveaux instruments que l'on va mettre en place, alors que la France, pour rejoindre ce que vous avez dit tout à l'heure, a sans doute privilégié une application de la PAC très centré quand même sur les problèmes de redistribution d'aide, pour des objectifs que je peux comprendre, un certain rééquilibrage entre la montagne et d'autres zones, etc. Alors que maintenant, on doit faire face au marché. Et quand je dis au marché, je mets des S volontairement. Donc il y a le local, le national, l'européen et l'international. Et la grande difficulté, c'est de faire vivre tout ça en coexistence, tout en permettant aux agriculteurs de tirer des revenus d'autres activités que la production de biens. Et moi, je pense fortement qu'il faut travailler le développement de services et de marchés de services pour certains types d'agriculteurs. Et quand je dis marché de services, c'est des marchés environnementaux, la biodiversité, l'eau, etc. Parce que dans des zones plus difficiles, en particulier les zones de montagne, c'est à la fois en étant producteur et en vendant des services que demande la société française et la société européenne, qu'on s'en tira mieux.
Jürgen Hollof, d'un mot, on parle évidemment toujours du couple franco-allemand. En Allemagne, on a plutôt tendance à parler du tandem franco-allemand. Est-ce que ce tandem existe ou pas du tout sur le thème de l'agriculture? Est-ce qu'il y a une approche un peu commune? Vous nous avez expliqué que l'agriculture allemande, elle est très forte, mais elle est aussi très diverse. Il y a des grandes exploitations, puis il y en a des toutes petites.
Les gouvernements sont en contact permanent. Aussi les ministres, il y a des groupes de travail et l'objectif est de trouver des positions communes, par exemple pour la prochaine conseil à Bruxelles.
Le 14 mars.
Pour l'instant, nos positions ne sont pas fixées totalement.
Mais en tout cas, l'Allemagne n'est pas sur la position de la France, en tout cas, hein, qui consiste à distribuer un petit peu, débloquer un peu plus d'argent rapidement.
Oui. En détail, il y a des différences. Nous ne voulons pas un retour d'une réglementation, d'une régulation des marchés. Mais malgré tout, c'est important d'avoir un certain filet de sécurité. Et je pense qu'on va parler comment on peut améliorer ce filet.
On va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre connaissance des dernières infos et on se retrouve dans 3 minutes, très exactement, au Salon de l'Agriculture. A tout de suite.
Spotkania europejskie.
Cruzamento d'Europa.
Rescrucia europei.
Σταυροδρόμι της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, bonsoir, Carrefour de l'Europe, deuxième partie, toujours au salon de l'agriculture et on entend les bruits des visiteurs au salon de l'agriculture et quand on tend l'oreille, on entend quelques poules sur le stand de l'INRA, c'est tout à côté. À force de produire plus, l'agriculture européenne a fini par produire trop de lait, trop de porc et bientôt trop de céréales. L'Europe, qui consacre près de 40% de son budget à la PAC, la politique agricole commune, est accusée de tous les maux. Il faut dire que l'on est passé en quelques années d'un système de prix garanti, un système libéral où les prix sont fixés par le marché mondial. On a rarement vu en France un agriculteur ne pas protester, mais ceux qui s'en sortent aujourd'hui ont soit atteint une taille critique, soit développé une niche, comme par exemple l'agriculture bio. La France est le premier pays agricole en Europe, mais le troisième exportateur de produits alimentaires après l'Allemagne et les Pays-Bas. La France aurait-elle fait les mauvais choix et où va plus généralement l'agriculture européenne? Je vous représente les invités qui ont bien voulu prendre place autour des micros de Carrefour de l'Europe ici au Salon de l'agriculture. Angélique Delay, elle est agricultrice et maraîchère. Elle est aussi eurodéputée LRPPE. Hervé Guillemard est directeur scientifique de l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique. Gilles Luneau est journaliste écrivain. Il est co-auteur avec José Bovet de l'alimentation en otage paru chez Autrement. Et Jürgen Olof est ingénieur agronome, premier conseiller en agriculture et alimentation à l'ambassade d'Allemagne en France. Lorsqu'on évoque le monde paysan, on a plutôt en tête des images d'Épinal, des vaches qui pèsent tranquillement dans les prés, une basse-cour au fond du jardin et le blé qui ondule au gré du vent. Même si cela n'a pas complètement disparu, le monde agricole a connu une métamorphose technologique. Dans les allées du salon, on retrouve Marina Mielzarek.
Un drone volant, des images satellites et un ordinateur intégré au tracteur. Trois outils qui ont changé la vie de Bruno Collin, exploitant agricole.
Aujourd'hui, grâce à des photos satellites, on est capable de mettre la bonne dose au bon endroit sur les cultures.
Avec la bonne dose de quoi d'engrais
d'un engrais aujourd'hui sur nos parcelles.
Donc, et alors, qu'est-ce que ça vous donne? Une photo de vos champs?
Donc, ça nous donne une photo de nos parcelles. On peut connaître mieux nos sous-sols pour mieux connaître la capacité de nos sols. Donc, faire de l'agriculture raisonnée, l'agriculture durable.
L'avenir du sperme de taureau se passera en Chine et en Iran aussi, deux pays très demandeurs. Et c'est Guy Robert qui s'en réjouit.
L'intérêt d'être connecté permet d'avoir beaucoup plus de proximité à l'international avec nos partenaires. Les Chinois, ils ont besoin de viande parce que la Chine est traditionnellement peu consommatrice de viande de bœuf. Mais aujourd'hui, avec une augmentation du pouvoir d'achat avec 260 millions de Chinois, au niveau de la classe moyenne, la consommation de viande bovine est en forte augmentation. Ils orientent leur choix vers des races qui apportent de la viande. Et nous, aujourd'hui, en France, on est les numéro un mondiaux des races à viande.
Quand Bernard Rocher se réveille le matin, son premier geste avant même d'aller dans ses champs, c'est de regarder ses écrans.
En fait, dans une ferme, nous sommes des entrepreneurs, hein, donc nous avons beaucoup de... C'est une entreprise, plus ou moins grosse suivant le cas, où on a des décisions à prendre toute la journée. Hein. Du prix des matières premières, ne serait-ce que pour simplement du fuel pour mettre dans le tracteur. Quand le pétrole baisse, les charges en sont impactées. Donc avant d'acheter du fuel dans une exploitation, on cherche à savoir si c'est le bon moment ou pas. On se doit, si on veut continuer à nourrir le monde, là, à être les plus compétitifs possibles. Hein, que nous ne sommes pas les seuls à vendre du lait ou du blé ou de la viande bovine.
Travailler en réseau, être 24 heures sur 24 relié aux fermes de ses voisins, aux services vétérinaires ou au marché européen, c'est bien beau, nous dit Hélène Jam de l'Institut National de Recherche Agronomique. Mais regardez les manifestations des agriculteurs en ce moment en France. Les plus petits ne s'y retrouveront pas.
Il y a des gens qui ont déjà acquis une certaine technologie, qui ont des structures qui sont relativement importantes, qui peut-être de cette manière-là arrivent à mieux supporter la crise aujourd'hui. Mais la crise, elle touche de plein fouet des petits agriculteurs. Est-ce que dans 5 ans, si ces agriculteurs-là, ces petits-là, ne se sont pas défendus, protégés, eh bien, ils n'existeront plus.
Angélique Delay, il y a ceux qui suivent, ceux qui calent et ceux qui prennent des chemins de traverse. Vous êtes une agricultrice ou vous êtes une femme d'entreprise?
Moi, j'ai toujours considéré que l'exploitation était une entreprise comme une autre. Alors, moi, comme dénomme paysan, agricultrice, maraîchère, moi, c'est le métier que j'exerce et je ne m'attache pas à la sémantique des choses. L'important, c'est... j'ai en responsabilité une quarantaine de salariés. L'important, c'est que tous les mois, j'ai de quoi les rémunérer correctement.
Et c'est pas facile tous les mois ?
Non, cette année, l'hiver n'a pas été facile et pas propice, en tous les cas, à la consommation des légumes d'hiver. Et les marchés ont été très mauvais.
C'est assez gilineux quand on entend le reportage de Marina Melzarek. On n'entend plus le tracteur, on entend quelques cloches de vache, mais c'est quand même un peu marginal. La technique a pris le pas sur la terre. Est-ce qu'on peut dire ça ?
Oui, je pense que on vit des ruptures technologiques successives. Après la Seconde Guerre mondiale, pardon. La première grande rupture, ça a été la mécanisation générale, je parle technologique, hein, la fertilisation, les pesticides. Ensuite, on a les OGM et aujourd'hui, on arrive à la robotisation. Je pense que ça arrive comme ça, sans forcément qu'on pense les répercussions. Il ne s'agit pas de dire on refuse des techniques qui améliorent les conditions de travail. C'est que simplement, là, ces ruptures-là changent un rapport au monde. C'est très simple, quand l'agriculteur reste toute la journée à contrôler les choses à partir de son ordinateur et bientôt à contrôler un robot, il abandonne son savoir empirique, celui qu'il accumule au long des années en étant en contact avec la nature, pour du data qui va prendre le pouvoir. En gros, c'est ça. Et pour le moment, il n'y a pas vraiment de réflexion, je dirais, philosophique sur le chemin qu'on emprunte là-dessus. Pour moi, ça s'inscrit petit à petit dans, si vous voulez, une domination complète de la production de la nourriture par une poignée de firmes. On a déjà, au niveau mondial, 5-6 firmes qui contrôlent toute la génétique, on va dire les deux tiers de la génétique. Et si je vais être très très court, à l'autre bout, on a 5-6 grandes surfaces qui contrôlent la distribution. Et au bout du compte, si on suit cette logique-là de robotisation, on l'a déjà avec les expériences de steak fait à partir de cellules souches, on n'aura plus besoin de paysans. Alors, c'est un choix de société, hein. Moi, je suis plutôt pour qu'on garde des paysans, pour qu'on garde le rapport à la nature. Et je vais en finir juste un petit mot dans ce qu'on a entendu dans le petit bobino juste avant. On oublie, par exemple, les grands défis qu'on a aujourd'hui. On sort d'une COP21 avec une alerte climatique qui est plus que sérieuse. On sait qu'on ne retrouvera jamais l'état antérieur de la Terre. On l'a définitivement changé. On en a pris pour des siècles, là, à essayer de récupérer un équilibre. L'agriculture qui se dessine aujourd'hui, dans les allées du salon, à grands coups de robots, ne prend pas du tout en compte ce que ça veut dire le climat. Très concrètement, on a besoin, en termes de biodiversité, de races locales, en végétal, en animal, parce qu'elles ont en mémoire génétique des climats antérieurs. Et là, on est en train, avec les exportations à tout crin de sperme d'autoroute en Chine, etc., d'uniformiser, de réduire la diversité. La FAO s'en inquiète dans son dernier rapport. Elle lance un cri d'alarme énorme sur la chute de biodiversité domestique. Je ne parle même pas de la biodiversité sauvage.
Alors le point de départ, on peut prendre l'exemple du lait par exemple, qui est un bon exemple de dérégulation. Avec la fin des quotas laitiers en Europe, comme il n'y a plus de quotas, on s'est mis à en produire de plus en plus. Ça a été par exemple le cas des Pays-Bas et de l'Irlande qui ont vu leur production augmenter cette année, avec l'idée que l'exportation allait sauver tout le monde, l'exportation vers la Russie, l'exportation vers la Chine et vers l'Asie d'une manière plus générale, sauf qu'il y a eu un embargo en Russie sur les produits occidentaux suite à l'agression russe en Ukraine. Et est-ce qu'on peut dire, Hervé Guillemard, que c'est la goutte de lait qui a fait déborder le vase et qui a mis un peu tout le monde par terre, et aujourd'hui qui fait qu'on a quand même beaucoup d'agriculteurs dans les rues?
Si vous permettez, je vais juste dire un mot sur la robotisation, parce que je partage pas tout à fait. En gros, le défi, il est d'arriver à concilier dans le lait, je vais prendre le lait, une agriculture qui soit respectueuse de l'environnement, et il n'y a pas photo, faut faire ça, et qui en même temps permette aux éleveurs de vivre de leur métier. Donc c'est performant sur le plan environnemental et économique. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui permettent d'arriver à cela, ou qui permettront. Et ce qu'on constate, c'est que les freins à ça, il y a une question de capital et il y a une question de travail et surtout de complexité du travail et de connaissance de l'agriculteur. Et justement, un des défis, et même la robotisation, peut amener l'agriculteur justement à avoir un temps d'observation beaucoup plus fort, car il ne faut pas laisser croire que c'est simplement les données et les robots qui feront l'analyse. Et le défi, il est justement d'arriver à concilier tout ce qu'on appelle le big data, y compris pour un éleveur, hein, voilà, avec en même temps la capacité d'analyse de l'éleveur qui doit rester entière. Et je crois que vraiment, c'est l'enjeu. Alors après, pour répondre à votre goutte de lait qui fait déborder le vase ou le pot au lait, c'est vrai que les pays, en particulier les pays du Nord, enfin ce qu'on appelle nous en France pays du Nord, on met l'Allemagne dans pays du Nord, mais enfin pays du Nord, Danemark, Pays-Bas,
ont augmenté leur production en prévision de sortie des quotas. Après, j'entends sur le salon beaucoup qu'il y a surproduction. Ce qu'on a fait cette fois-ci, en sortant des quotas et en permettant donc aux éleveurs laitiers...
Les quotas, Eric Guimard, faut rappeler que chaque pays pouvait produire un certain nombre d'hectolitres de lait, et donc chaque paysan, chaque éleveur pouvait en produire lui aussi un certain nombre.
Voilà, en 84, on a défini des quotas de production, donc on a dit à chaque pays, vous avez le droit de produire tant de lait, et après c'était réparti. La France a choisi, en fait, de le répartir sans permettre d'échanger les quotas, sauf un peu marginalement, entre producteurs, alors que des pays ont choisi de pouvoir vendre des quotas entre eux. Ce qui fait que peut-être ceux qui avaient autorisé la vente étaient mieux préparés que nous à la sortie de quotas. Mais en gros, quand même, il y avait un certain nombre de producteurs laitiers qui étaient dans des structures de production qui leur permettaient d'augmenter leur production assez rapidement à des frais relativement moindres. Mais ce qu'ils ont pu faire cette fois-ci, ils ne le feront pas chaque année, quoi. Et donc, j'aime pas trop le terme surproduction. La question, c'est qu'on a sans doute mal anticipé la sortie des quotas, en particulier dans notre pays, en France, et ça rejoint le point de comment demain vous allez avoir la capacité de lutter contre une plus grande variabilité de tout, si je fais très très vite. Parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut essayer de sortir de l'embargo russe, mais demain, il y aura autre chose. Et donc la question, c'est quels sont les mécanismes publics et privés que vous mettez en œuvre pour faire face à la volatilité qui sera plus grande demain, y compris sous l'effet du changement climatique. Et là, je ne peux pas dire qu'on ne s'attaque pas au changement climatique quand même. En tout cas, nous, on s'attaque à ça.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe au Salon de l'Agriculture, nous sommes avec Angélique Delahaye, agricultrice et eurodéputée, Hervé Guillemard, directeur scientifique de l'INRA, Gilles Luneau, journaliste et écrivain, et Jürgen Olof, premier conseiller agriculture et alimentation de l'ambassade d'Allemagne en France. L'Europe se noie-t-elle dans le lait? Est-ce qu'on est dans la surproduction? C'est un thème que refuse d'admettre, en tout cas, il n'aime pas trop ça. Hervé Guillemard, Gilles Luneau, qu'en pensez-vous? Et puis après, on donnera la parole à Jürgen Olof.
Je vais revenir sur ce que vient de dire Hervé Guillemard et je suis d'accord sur le constat qu'il va falloir s'attaquer à la volatilité des prix. La question, c'est qu'il faut mettre sur la table les conditions de production. Quand moi je dis que la pensée de filière, la concentration de la production qu'on a vu, ça atteint d'une part, on l'a vu ces dernières années avec l'arc lait français, c'est-à-dire un problème d'occupation du territoire, hein, très clairement, c'est-à-dire on a perdu pendant 5-6 années successives, à peu près 5000 exploitations laitières par an, et toutes celles du sud-loire, grosso modo. Je laisse de côté celles qui transforment directement en fromage. Le truc essentiel, c'est de voir que quand on a une concentration de la production avec des exploitations de plus en plus grandes, on n'emmène plus pâturer les vaches quand on en a plus de 70, faut arrêter. On a aujourd'hui du zéro pâturage, des exploitations. Comment on nourrit les animaux? On les nourrit avec des importations de soja et de maïs aux deux tiers OGM qui viennent d'Amérique du Sud ou d'Amérique du Nord. On ne se pose pas la question de la déforestation, parlons climat, de ce que ça provoque de déforestation en Amazonie d'une part. On ne se pose pas la question du bilan climatique, de comment c'est cultivé à grand renfort d'engrais et de pesticides. C'est ça, quand je dis la vérité d'une agriculture qui prenne en compte et le territoire et le climat, c'est de considérer tout ça. On se décharge sur les pays du Sud ou d'autres, de l'agriculture qu'on fait aujourd'hui. Et on est devenu totalement dépendant de ces importations.
Jürgen Olof, on a compris que les Allemands étaient pragmatiques et avaient su passer d'un système de quotas à un système de libéralisation. On ne va pas y revenir, on a compris que les Allemands étaient en tout cas plus malins que les Français sur ce créneau. Est-ce qu'en Allemagne aussi, il y a le débat sur le rôle des industriels, le rôle des grands distributeurs qui dictent leurs lois aux paysans? Est-ce que c'est aussi un débat que l'on a en Allemagne? Il est évidemment ici très présent en France.
Oui, c'est aussi une discussion très, très intensive actuellement en Allemagne, parce que nous avons une distribution très concentrée, plus concentrée comme en France. La compétition entre les grandes chaînes est plus intensive qu'en France, c'est-à-dire la pression de la distribution concernant les prix est très forte. Et en Allemagne, on a changé un peu les règles pour renforcer la position des agriculteurs, pour s'organiser mieux, pour créer des groupements des agriculteurs, groupements de branches, Et je pense que ça, c'est très important que l'organisation des agriculteurs augmente pour créer un contrepoids concernant la distribution.
Angélique Delahaye, quand vous entendez ça, vous dites, ben, finalement, on a beaucoup de choses à apprendre du côté des Allemands ou pas ?
Oui, on a forcément toujours à apprendre des autres. Ça, c'est une évidence. Pour autant, en France, il y a eu un certain nombre de choses aussi de fait quant à la structuration des filières. Mais on a encore sûrement beaucoup à progresser. Je pense qu'une des vraies différences entre la distribution française et la distribution allemande, c'est le patriotisme économique. Pour m'être longtemps battu avec la distribution, je dois dire qu'on a sûrement la pire d'Europe. Hein, c'est-à-dire que ce qui intéresse le distributeur français, c'est d'acheter le plus bas possible, quelle que soit l'origine et quelles que soient les conditions de production.
Ce que ne font pas les producteurs, les distributeurs allemands.
Je suis maraîchère, j'ai jamais mis un kilo de mâche en Allemagne chez un distributeur allemand si les producteurs allemands avaient de la mâche locale. On met de la mâche en Allemagne, de la mâche nantaise, de la mâche du Val-de-Loire, uniquement quand il n'y a plus un kilo de mâche sur le marché allemand. Donc il y a quand même cet esprit patriote de la distribution allemande. Et puis il y a un autre élément, c'est que sur la question du rapport entre la production et la distribution, la distribution a compris en Allemagne qu'elle ne pourrait bien vivre que si les agriculteurs vivaient correctement. Et donc il y a cette contractualisation entre distributeurs et producteurs qui se fait sur des bases de transparence, ce qui n'est pas encore le cas en France au sein de nos interprofessions. Et pour ça, il faudra changer une chose au plan européen et au plan national, parce que moi j'en fais les frais en tant qu'exploitante, c'est le droit de la concurrence. Aujourd'hui, quand vous pensez que les producteurs d'endives ont été mis au tribunal parce qu'ils avaient eu le malheur de s'entendre, alors que cette entente n'a jamais été avérée sur le marché, qu'elle n'a jamais eu aucune conséquence en termes d'entrave à la libre concurrence, je trouve qu'on est un peu tombé sur la tête, ici et peut-être aussi en Europe.
Je voudrais qu'on change un peu de sujet. Est-ce que l'agriculture a vocation à être éternellement subventionnée ou pas ? Qui veut rebondir sur cette question ? Hervé Guillaumard.
Le constat, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'agriculteurs qu'aujourd'hui au niveau de la planète. Des fois, on a tendance un peu à l'oublier, mais de par la démographie que l'on connaît au monde, il n'y a jamais eu autant d'agriculteurs. Et la deuxième chose après que je dirais, c'est que sur les 800-850 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, il ne faut pas l'oublier quand même, hein, les trois quarts, c'est des personnes qui vivent en milieu rural, c'est souvent des paysans sans terre. Donc quand même, par rapport aux défis planétaires, c'est une question essentielle. Après, la question des subventions à l'agriculture. Dans les pays développés et dans beaucoup de pays en développement, il y a des subventions à la production agricole pour des motifs un peu différents. On a tendance à dire, par exemple, qu'en Europe aujourd'hui, on donne peut-être trop, enfin j'entends des fois dans le salon, d'argent aux agriculteurs ou trop de ressources, enfin d'aides budgétaires. Pas oublier quand même que la réforme de la PAC, pour l'essentiel, ça a consisté à baisser le soutien par les prix, donc qui était un soutien assuré par le consommateur, à remplacer ce soutien par les prix par des aides versées par le contribuable. Donc après, c'est assez logique qu'on retrouve aussi ça dans les aides, c'est par construction. Le défi que l'on doit faire demain, c'est pourquoi vous donnez ces aides. Et c'est la légitimité en fait des aides à l'agriculture. Et effectivement, c'est quand même pour la fourniture de biens publics.
Gilles Luneau, s'il n'y avait pas de PAC, il n'y aurait pas d'agriculture européenne ?
Ah oui, je pense qu'il n'y avait pas de politique. Elle ne serait pas dans cet état-là, ça c'est clair. Il faut se rappeler quand même que ça a été la manière de reconquérir à l'époque l'autosuffisance alimentaire de l'Europe des six au sortir de la guerre, hein, je veux dire, avec une agriculture dévastée. Donc, si on prend celle de la France, l'état de l'élevage était lamentable, la tuberculose chez les vaches, etc., etc. Faut se rendre compte que la subvention, c'est l'outil d'une politique, hein. Il n'y a pas de gouvernement, enfin en principe, dans les grandes responsabilités d'un gouvernement, il y a d'assurer la justice, la paix, l'éducation et les assiettes pleines. Donc ça fait partie vraiment des grandes politiques d'un gouvernement. L'argent, dans une politique agricole, ça sert à appliquer des orientations, des choix des citoyens, l'agriculture qu'ils veulent. Je parle en démocratie.
C'est-à-dire en gros ce qu'ils veulent manger.
Voilà, exactement. Mais pas seulement, c'est une occupation du territoire aussi. C'est peut-être le même volume de production, mais avec un peu plus d'agriculteurs, avec un meilleur prix. Et à ce moment-là, on verra comment, avec l'argent, à volume égal, on préfère ce qu'on fait aujourd'hui subventionner l'accumulation de capital sur les grosses exploitations ou subventionner une occupation du territoire beaucoup plus diversifiée.
L'organologue voulait réagir.
Oui, je pense que les subventions pour l'agriculture sont encore nécessaires parce que nous avons un modèle, le modèle européen de l'agriculture avec des objectifs environnementaux, sanitaires, développement rural, maintien des emplois. Et la question est comment organiser les subventions. Et je pense que c'est de plus en plus important de plus cibler les subventions pour atteindre les objectifs, pour soutenir le bien-être animal, soutenir les objectifs environnementaux. Et c'est un défi pour la prochaine réforme de la PAC après 2020 d'adapter le système avec l'objectif principal de concilier la compétitivité de l'agriculture avec les attentes sociétales concernant bien-être animal, environnemental.
Angélique Gallès, ce qu'on note aussi dans les allées du salon, c'est que ceux qui s'en sortent le mieux, alors c'est vrai en France, mais probablement qu'on peut élargir ça à l'Europe, c'est ceux qui travaillent sur des niches, des produits labellisés, des produits d'origine garantie, contrôlée, ou évidemment l'agriculture bio, qui est évidemment en pointe. C'est ceux-là qui s'en sortent ou pas? Je m'adresse à vous, agricultrice et eurodéputée.
Vous avez parlé de niche. De façon très pragmatique, il ne faut pas que le chien soit plus gros que la niche.
Aujourd'hui,
tout ça ne représente que, bon an, mal an, 5 à 10% de la production agricole. Donc qu'est-ce qu'on fait des 90 autres? Et moi, je reste convaincue que, au moins en France, je ne parlerai pas pour les autres, parce que je connais mieux l'agriculture française. Elle est innovante, elle est créatrice de valeur ajoutée. Et si on la met dans les mêmes conditions de compétition que les autres agricultures européennes, il n'y a aucune raison que la France ne garde pas et ne retrouve peut-être la place qui est la sienne au plan européen.
Hervé Guillaumard, d'un mot, parce qu'on arrive au terme de cette émission, les agriculteurs, ils sont un peu comme tout le monde, ils veulent de la visibilité, ils veulent savoir où on va, ils vont aller, s'ils investissent, est-ce qu'ils vont pouvoir amortir leur investissement, etc. Ils sont un peu comme tout le monde, mais est-ce qu'on peut avoir de la visibilité dans un monde mondialisé?
En tout cas, je pense que c'est effectivement ce sur quoi nous devons travailler collectivement, c'est définir en fait la vision stratégique, ce que l'on veut pour l'agriculture française et pour l'agriculture européenne, parce qu'il faut évidemment réfléchir l'avenir de l'agriculture française dans le cadre européen. C'est ce qui manque, voilà. Et en fait, il faut qu'on se mette tous autour de la table, agriculteurs, transformateurs, distributeurs, les consommateurs, pour définir ce qu'on veut. En se voilant pas la face, par exemple, le fait que la consommation de viande en France stagne, voire baisse, c'est un fait. Voilà. Et c'est illusoire de croire qu'on récupérera d'importants volumes de croissance en consommation de produits carnés. Et donc, il faut faire face aux réalités de façon partagée.
Gilles Luneau, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin. À la une de Global Magazine, qui est un magazine en ligne, globalmagazine.info. C'est ça,
c'est ça.
Vous avez écrit un article, un long article, et vous n'avez pas le temps de tout développer. Réinventer l'agriculture. Réinventer l'agriculture, ça passe par quoi?
Ça passe par abandonner l'approche agricole via les lunettes de l'industrie. C'est-à-dire que la pensée d'ingénieur qui s'applique depuis la guerre sur le développement de l'agriculture a réduit le champ de pensée. On réduit un acte agricole qui est un acte éminemment complexe de relations à nature, de culture, de savoir agronomique, etc., à quasiment une équation mathématique. On évacue le complexe pour garder simplement une équation de rentabilité. On en a beaucoup parlé autour de cette table et de compétitivité. Je pense qu'une activité de dialogue avec la nature comme l'agriculture, ce n'est pas que de la compétition avec la nature, c'est même plutôt de l'accord. Et si on l'élève au niveau européen, moi je m'inscris en faux contre d'être en compétition avec les autres paysans européens. On pourrait plutôt réfléchir à être avec des échanges équitables intra-européens.
Alors c'est vrai qu'il y a le commerce équitable avec les pays de, par exemple, le cacao équitable, le café équitable. On n'a jamais vu un yaourt équitable. Ça n'existe. Enfin, je l'ai pas vu. Peut-être que ça existe, mais je l'ai pas vu. On n'a jamais vu une tomate équitable, Angélique de la Haye.
Non, il faudrait effectivement revenir à des notions de juste prix payé aux agriculteurs. Mais il faut aussi que les consommateurs redonnent à l'alimentation la place qui devrait être la sienne. En tous les cas, moi, c'est ma vision des choses. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait dans cette société-là qu'on est. Hein. On préfère ne pas acheter cher son alimentation. Alors, avec tout ce que ça peut avoir comme conséquence, hein, et puis avoir plusieurs téléphones portables par foyer. C'est un choix. Moi, je n'ai pas apporté de jugement de valeur par rapport à ça. Mais après, il ne faut pas non plus s'étonner du résultat de ce que l'on trouve dans nos assiettes.
Gilles Hunault, un dernier mot.
Je vais aller un tout petit peu plus loin quand je lis de la haine. C'est que je pense qu'il faut maintenant, vu en gros les 10 milliards d'argent public hein, qui subventionnent l'agriculture en France, laisser une place aux citoyens dans la définition des politiques agricoles.
Merci à tous les cas d'avoir été au carrefour de l'Europe ici au Salon d'Agriculture. Gilles Hunault, je rappelle le titre de votre livre coécrit avec José Bové, L'alimentation en otage chez Autrement. Je rappelle aussi votre site, c'est vous qui allez le rappeler,
www.globalmagazine.info.
Sur la page de l'émission Carrefour de l'Europe, RFI, des infos sur nos invités, réalisation Guillaume Munier et Mel Chablaoui. Pour écouter cette émission en podcast RFI.fr ou les applis mobiles mais gratuites de RFI, on reste en contact bien sûr via Facebook et Twitter. Daniel Desesquelles, où que vous soyez, à la ville ou au champ, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.